La vengeance chrétienne contre Rome. Rien ne fatigue peut-être autant que l'aspect d'un perpétuel vainqueur. On avait vu Rome s'assujettir pendant 200 ans, un peuple après l'autre. Le cercle était accompli, l'avenir semblait arrêté, toute chose était préparée à durer éternellement. Et lorsque l'Empire construisait, on construisait avec l'arrière-pensée de l'aere perennius, nous qui ne connaissons que la mélancolie des ruines. Pouvant à peine comprendre cette mélancolie toute différente des constructions éternelles, contre quoi il fallait tâcher de se défendre comme on pouvait, par exemple avec la légèreté d'Horace. D'autres cherchèrent d'autres consolations contre la fatigue qui frisait le désespoir, contre la conscience mortelle que dès lors tout mouvement de la pensée et du cœur serait sans espoir, que partout guettait la grosse araignée qui boirait impitoyablement le sang ou qu'il puisse encore couler. Cette haine muette du spectateur fatigué, longue d'un siècle, cette haine contre Rome, partout où dominait Rome, finit par se décharger dans le christianisme qui résumait Rome, le monde et le péché dans un seul sentiment. On se vengea de Rome en imaginant la fin du monde prochaine et soudaine. On se vengea de Rome en introduisant de nouveau un avenir. Rome avait su tout transformer en histoire de son passé et de son présent. Un avenir avec lequel Rome ne supporterait pas la comparaison. On se vengea de Rome en rêvant du jugement dernier, et le juif crucifié, symbole du salut, apparaissait comme la plus profonde dérision en face des superbes prêteurs des provinces romaines. Car dès lors, ils apparurent comme les symboles de la perdition et du monde mûr pour sa chute. L'outre-tombe. Le christianisme trouva la conception des peines infernales dans tout l'Empire romain. Les nombreux cultes mystiques avaient couvé cette idée avec une complaisance toute particulière, comme si c'était là l'œuf le plus fécond de leur puissance. Épicure ne croyait rien pouvoir faire de plus grand pour ses semblables que d'extirper cette croyance jusque dans ses racines. Son triomphe a trouvé son plus bel écho dans la bouche d'un disciple de sa doctrine, disciple sombre mais venu à la clarté, le Romain Lucrèce. Hélas, son triomphe vint trop tôt. Le christianisme prit sous sa protection particulière la croyance aux épouvantes du Styx qui se flétrissait déjà, et il fit bien. Comment, sans ce coup d'audace en plein paganisme, aurait-il pu remporter la victoire sur la popularité des cultes de Mithra et d'Isis? C'est ainsi qu'il mit les gens créatifs de son côté, les adhérents les plus enthousiastes d'une foi nouvelle. Les Juifs, étant un peuple qui tenait et tient à la vie comme les Grecs et plus encore que les Grecs, avait peu cultivé cette idée. La mort définitive, comme châtiment du pécheur, la mort sans résurrection, comme menace extrême, voilà qui impressionnait suffisamment ces hommes singuliers qui ne voulaient pas se débarrasser de leur corps, mais qui, dans leur égypticisme raffiné, espéraient se sauver pour toute éternité. Un martyr juif dont il est question au deuxième livre des Maccabées ne songe pas à renoncer aux entrailles qui lui ont été arrachées. Il tient à les avoir lorsque ressusciteront les morts, cela est bien juif. Les premiers chrétiens étaient bien loin de l'idée des peines éternelles. Ils pensaient être délivrés de la mort, et ils attendaient, de jour en jour, une métamorphose et non plus une mort. Quelle étrange impression a dû produire le premier décès parmi ces gens qui étaient dans l'attente. Quel mélange d'étonnement, d'allégresse, de doute, de pudeur et de passion. C'est là vraiment un sujet digne du génie d'un grand artiste. Saint Paul ne sut rien dire de mieux à la louange de son Sauveur, si ce n'est qu'il avait ouvert à chacun les portes de l'immortalité. Il ne croyait pas encore à la résurrection de ceux qui n'étaient pas sauvés. Bien plus, en raison de sa doctrine de la loi inaccomplissable et de la mort considérée comme conséquence du péché, il soupçonnait même que personne en somme n'était jusqu'alors devenu immortel, sauf un petit nombre d'élus par la grâce et sans mérite. Ce n'est que maintenant que l'immortalité commence à ouvrir ses portes, et peu d'élus y ont accès. L'orgueil de celui qui est élu ne peut pas manquer d'ajouter cette restriction. Ailleurs, lorsque l'instinct de vie n'était pas aussi grand que parmi les juifs et les juifs chrétiens, et lorsque la perspective de l'immortalité ne paraissait pas simplement plus précieuse que la perspective d'une mort définitive, l'adjonction pharisienne, il est vrai, mais point totalement anti-judaïque de l'enfer, devint un instrument propice aux mains des missionnaires. Alors naquit cette nouvelle doctrine que le pécheur et le non-sauvé sont eux aussi immortels, la doctrine de la damnation éternelle, et cette doctrine fut plus puissante que l'idée de la mort définitive qui se mit à pâlir dès lors. C'est la science qui a dû refaire la conquête de cette idée, en repoussant en même temps toute autre représentation de la mort et toute espèce de vie dans l'au-delà. Nous sommes devenus plus pauvres d'une chose intéressante. La vie, après la mort, ne nous regarde plus. C'est là un indicible bienfait qui est encore trop récent pour être considéré comme tel dans le monde entier. Et voici qu'Épicure triomphe de nouveau. Pour la vérité. La vérité du christianisme était démontrée par la conduite vertueuse des chrétiens, leur fermeté dans la souffrance, leur foi inébranlable, et avant tout, par leur expansion et leur accroissement malgré toutes les misères. Vous parlez ainsi aujourd'hui encore, c'est à faire pitié. Apprenez donc que tout cela ne prouve rien, ni pour ni contre la vérité. Qu'il faut démontrer la vérité autrement que la véracité, et que cette dernière n'est nullement un argument en faveur de la première. Arrière-pensée chrétienne. Les chrétiens des premiers siècles n'auraient-ils pas eu généralement cette arrière-pensée ? Il vaut mieux se persuader que l'on est coupable que de se persuader que l'on est innocent. Car on ne sait jamais comment un juge aussi puissant pourrait être disposé. Mais il est à craindre qu'il n'espère trouver que des coupables qui ont conscience de leur faute. Avec sa grande puissance, il fera plutôt grâce à un coupable que d'avouer que celui-ci est dans son droit. C'était là le sentiment des pauvres gens de province devant le prêteur romain. Il est trop fier pour que nous osions être innocents. Pourquoi ce sentiment n'aurait-il pas reparu lorsque les chrétiens voulurent se représenter le juge suprême ? Ni européen ni noble. Il y a quelque chose d'oriental et quelque chose de féminin dans le christianisme. C'est ce que révèle à propos de Dieu la pensée « qui aime bien châtie bien ». Car les femmes en Orient considèrent le châtiment et la claustration sévère de leur personne, à l'écart du monde, comme un témoignage d'amour de la part de leur mari, et elles se plaignent lorsque ce témoignage fait défaut.